Le journal des sports, c'est avec vous, Cédric Langrotte, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Dans moins de deux heures, le coup d'envoi au Havre de ce match très attendu.
Oui, on en parle depuis lundi, hein, ce huitième de finale du mondial féminin entre la France et le Brésil. Coup d'envoi à 21h et toute l'équipe de France Inter, vous l'entendez, qui est déjà sur place. Bonsoir Nadia Ben Mokhtar.
Bonsoir.
La consultante foot de Radio France, bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Une semaine d'attente, je le disais, mais un adversaire finalement connu assez tard, hein, jeudi soir seulement. Dans quelles dispositions sont nos Bleus avant cette rencontre, Guillaume ?
Alors, elles ont forcément un petit peu de pression sur les épaules parce qu'au fil des matchs de cette phase de groupe, ça a été de plus en plus difficile. 4-0, 2-1, 1-0, ça s'est vérifié dans le score et puis sur le terrain, dans la performance également. Donc ça, elles l'ont en tête, c'est sûr. Et puis ce soir, c'est un premier match à élimination directe. Il n'y a pas de place au faux pas, pas de place au match nul. Ça se terminera au tir au but, comme ça l'a déjà fait hier notamment. Donc les Bleus ont cette pression-là, mais on les voit, elles sont entrées sur la pelouse du Stade Océane il y a quelques minutes. Nadia, et elle rigole, on voit Sarah Boisdi, on voit Grace Gueyoro, elles sont bien habillées en pantalon, veste foncée et chemise blanche, basket blanche également, et on est un peu loin d'elle, mais on sent qu'elles discutent par petits groupes, que c'est plutôt un groupe qui vit bien, ça se voit à chaque fois qu'on peut les observer.
Alors on a beaucoup entendu Corinne Diacre, vous en parliez, essayer de faire tomber la pression, comme par exemple ces quelques mots prononcés en conférence de presse.
On a un match couperet. Il nous attend maintenant que des matchs de ce genre-là. C'est ce qui fait aussi le charme d'une Coupe du Monde, on ne va pas s'en plaindre. L'idée surtout, c'est de jouer ce match-là et de ne pas avoir de regrets à l'issue du match.
Un match comme un autre, vraiment, Nadia Ben Mokhtar ?
Non, comme un autre, je ne pense pas. Je pense que cette déclaration, elle a vraiment pour vocation de dédramatiser, on va dire, et de faire tomber la pression. Mais déjà, comme vous l'avez très bien dit, un huitième de finale, c'est le premier match à élimination directe, donc défaite interdite. Déjà, ça donne un contexte particulier. Et puis, c'est vrai que cette équipe brésilienne, c'est une équipe de grande qualité. Et ça va obliger les Bleus vraiment à passer un cap cette fois-ci, à élever leur niveau de jeu. Et surtout, à jouer leur jeu, à se libérer, à mettre de la folie, à mettre de la créativité. Donc voilà, c'est vraiment un match qui va permettre à l'équipe de France de pleinement rentrer dans cette Coupe du Monde.
Et puisque vous parlez du Brésil, parlons-en quelques instants. Surmotivée, elle est brésilienne. Un gros choc, hein, ce France-Brésil de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en tout cas ce que nous disait Rafael De Angeli, journaliste aux médias brésiliens Globo.
Toutes les Brésiliennes regardent le match. Au Brésil, il y a 20-25 millions de personnes qui regardent le match, tous les matchs. Et pour ça, je pense que ce n'est pas un match normal. Au contraire, c'est un match historique pour le Brésil.
Un match historique, est-ce que ça peut décupler les forces des coéquipières de Marta ou de Formiga, Nadia ?
Oui, de toute façon, le Brésil est un peuple qui aime tellement le football qu'elle soutient son équipe nationale, qu'elle soit féminine ou masculine. Je pense que cette équipe brésilienne avait pour objectif d'aller en huitième. Donc l'objectif, finalement, il est rempli. Maintenant, c'est que du bonus pour ces joueuses-là. Mais connaissant un peu les tempéraments de ces joueuses, c'est des compétitrices. Et si elles ont l'opportunité d'aller au bout, évidemment qu'elles vont y mettre beaucoup de cœur.
Guillaume, comment la France doit aborder cette rencontre, et notamment pour contrer cette joueuse que je viens d'évoquer et dont tout le monde parle, la record woman du nombre de buts en Coupe du Monde, hommes et femmes confondus, Marta ?
107 buts dans sa carrière en sélection, 146 matchs avec la Seleção. Il n'y a pas qu'elle, il y a Christiane, 93 buts aussi. Ça fait quasiment 200 buts, ouais, 200 buts tout rond à L2. Donc c'est pas que Marta. Marta, je suis pas sûr qu'il y ait un plan de Corinne Diacre contre la reine Marta, parce que c'est aussi comme ça qu'on la surnomme là-bas. C'est Pelé qui lui a donné ce nom-là. C'est une joueuse très performante, une buteuse dans l'âme. Je pense que la défense, et notamment la défense centrale de Corinne Diacre avec deux cadres, Wendy Renard et Grinchbock, ont toute la confiance de la sélectionneuse et ont toute la capacité d'arrêter les offensives brésiliennes, en particulier les capacités offensives de Marta.
Battre le Brésil en huitième de finale, ce serait le strict minimum, Nadia ? Pour la France ?
Oui, ça serait quand même déjà une belle performance, hein, parce qu'on parle d'une belle équipe, mais effectivement, une élimination à ce stade-là de la compétition serait une énorme déception pour toute la fédération, mais aussi pour tous les Français. Donc je pense que voilà, les joueuses ont vraiment à cœur de se qualifier ce soir. Et ça serait, je pense, moi, plutôt un bon déclic et un bon tremplin pour la suite de cette compétition, de se confronter tout de suite à une équipe de haut niveau pour après voilà, être tout de suite dans un mode où on met beaucoup d'exigences et où on va le plus loin possible.
On a fait beaucoup le parallèle, notamment avec le France-Argentine de l'an dernier chez les hommes, cette Coupe du Monde masculine, et ce France-Argentine également en huitième de finale qui avait été un peu un déclencheur de quelque chose. C'est ça que vous nous dites en fait, Nadia ?
Oui, exactement, parce que c'était pareil chez les garçons. Ils avaient fait une phase de poule assez mitigée, on va dire, en termes de qualité de jeu et de performance. Et jouer tout de suite une grande nation, et ben, inconsciemment, les joueurs comme les joueuses se mettent vraiment à un niveau d'exigence supplémentaire. Et je pense que c'est du coup une bonne chose de jouer le Brésil ce soir et pas le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande, parce que ça oblige les joueuses à passer un cap et à monter en puissance en se libérant complètement.
Nadia Benmokhtar, la consultante foot de Radio France, et Guillaume Batin, les envoyés spéciaux de France Inter au stade Océane du Havre. Merci à vous. On rappelle donc le coup d'envoi de ce huitième de finale face au Brésil. C'est tout à l'heure à 21h. Et en ce moment, on joue les toutes dernières minutes de l'autre huitième de finale du jour entre l'Angleterre et le Cameroun. C'est pas tout à fait fini, mais bon, le suspense n'est plus vraiment là puisque l'Angleterre mène 3-0 face au Cameroun. À noter que l'arbitrage vidéo s'est une nouvelle fois illustré dans cette demi-finale, dans ce huitième de finale plutôt.
C'est très bien.
Pas mal énervé les Camerounais.
Allez, on passe au Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de France, qui n'a rien changé à la situation. Il y a toujours un homme qui règne en maître cette saison.
Lewis Hamilton, le Britannique, qui a remporté cet après-midi la course sur le circuit du Castellet dans le Var. Comme depuis le début des essais libres jeudi, les Mercedes sont au-dessus, tout simplement, Jean-Pierre Blimeau.
Les années passent et se ressemblent au Castellet. Pour Mercedes, auteur de la pole et vainqueur du Grand Prix en 2018, Lewis Hamilton a récidivé cette année sans aucune difficulté. Parti en première ligne devant son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique et le Finlandais avaient la possibilité de livrer bataille pour la victoire. Ce duel n'a jamais eu lieu. Bottas a surtout été menacé par Charles Leclerc, le jeune monégasque, qui a tenté sur sa Ferrari de s'emparer de la deuxième place dans les derniers tours. Quatrième, le Néerlandais aux dents longues, Max Verstappen. Il finit devant Sébastien Vettel. L'Allemand, finalement cinquième, alors qu'il avait été handicapé par une septième place sur la grille de départ. Mais Vettel a soufflé in extremis le meilleur chrono du tour de piste et le point de bonus qui va avec à Lewis Hamilton. Côté tricolore, ce Grand Prix de France ne restera pas dans les mémoires. Pierre Gasly, parti avec des pneus trop tendres, a dû s'arrêter dès le 18e tour et finit 11e, sans marquer de points. Romain Grosjean, seul Français à finir dans l'Ovale l'an dernier, abandonne en fin de course. Et c'est Renault qui porte de nouveau le plus haut les couleurs de la France, avec l'Australien Ricciardo, 7e, et l'Allemand Hülkenberg, 9e. Au Castellet, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et précisons que la décision de Romain Grosjean d'abandonner la course relève de la stratégie d'équipe et pas d'un problème technique sur sa monospace. La mise au point de l'écurie A ce soir, mais au-delà des Mercedes, celui qui se réjouit à l'heure où je vous parle, c'est bien Charles Leclerc, offensif jusqu'au bout sur sa Ferrari. Le Monégasque finit donc 3e, Jean-Pierre vient de nous le dire, avec Valtteri Bottas dans sa ligne de mire.
C'est pas passé loin, j'avais pas mal géré les pneus avant ça et vers la fin je me sentais bien, la voiture était plutôt bonne. J'ai vu que Valtteri galérait un petit peu vers la fin donc j'ai poussé encore plus et bon ça l'a pas fait pour peu. Je pense qu'il a surtout eu quelques problèmes à remettre ses pneus dans la bonne fenêtre et donc voilà, j'ai essayé d'en profiter mais c'était pas suffisant.
Dans le dernier virage, c'était pour de vrai cette petite attaque là ou...
Non, je me suis dit, sous un malentendu, ça peut marcher, mais non, ça n'a pas marché.
Charles Leclerc, l'actuel 5e du classement des pilotes au micro de nos confrères de Canal+. Il est juste devant le premier Français, Pierre Gasly, le Normand.
Et pendant ce temps, on vient d'entendre les monospaces, pendant ce temps, place de la Concorde à Paris, ce sont les Alpha Jets de la Patrouille de France qui ont fait résonner leurs réacteurs.
Oui, la clôture de cette grande journée olympique, l'emblématique place parisienne transformée en immense terrain de sport, avec pas moins de 30 fédérations invitées, des démonstrations, des athlètes de haut niveau. On a croisé notamment Renaud Lavillenie ou encore Yannick Agnel. Thomas Larabi, vous êtes sur place pour France Inter. Le but, c'était de renforcer l'engouement populaire en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mission accomplie, Thomas ?
Oui Cédric, on n'a pas encore le chiffre de fréquentation, mais visuellement c'était assez impressionnant. Mention spéciale à l'escalade qui gagne le prix de la plus longue file d'attente. Certains ont fait jusqu'à une heure de queue pour pouvoir grimper le mur de 8 mètres installé ici, place de la Concorde, juste en face de l'obélisque. Alors globalement ce sont les disciplines nouvelles qui ont eu le plus de succès auprès des enfants, avec, on le disait, l'escalade, mais aussi le skateboard ou encore le breakdance. Pas de surf malheureusement, il a été difficile d'amener les vagues ici au pied de l'obélisque. Et puis il n'y a pas que les enfants, les champions, vous le disiez aussi, on fait des découvertes. J'ai assisté à un combat de sabre laser, notamment entre Renaud Lavillenie et Yannick Agnel. Ils se sont aussi affrontés dans un concours de pénalty cécifoot avec un bandeau sur les yeux. Alors ils n'ont pas cadré beaucoup de frappes. Cédric, on souhaite plus de précision à l'équipe de France ce soir. Et puis pour finir, il y a une demi-heure, il y a eu le clou du spectacle, la Patrouille de France. Deux passages sous les hurrahs du public, la Patrouille laissant derrière elle les fameuses traînées bleu, blanc, rouge. Bref, c'était les petits plats dans les grands ici et ça sent effectivement l'opération réussie.
Thomas Larabie, depuis la place de la Concorde à Paris, on entend derrière vous que ça joue encore pas mal au tennis de table.
Pas encore trop chaud.
Exactement.
Pour faire du sport.
Et justement, c'est un sport qui va faire son apparition aux Jeux Olympiques dès l'an prochain à Tokyo. Le basket à 3 contre 3. La Coupe du Monde a lieu en ce moment aux Pays-Bas. La finale va opposer dans quelques minutes maintenant les États-Unis à la Lettonie. Basket à 3 contre 3. Un sport en plein essor, Florent Vautier.
À 15 ans, Aubin joue au basket en 5 contre 5 avant de découvrir le 3 contre 3.
Je me suis intéressé à cette discipline parce que j'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup du basket de rue et qu'il y avait beaucoup plus d'intensité que dans le 5-5. Ça me permettait d'exploiter plus le jeu que j'avais l'habitude de jouer, donc c'est pour ça que je me suis de plus en plus intéressé à ce sport.
Des matchs en 21 points, sur une moitié de terrain, où les joueurs peuvent s'auto-arbitrer, le basket 3-3, c'est un état d'esprit particulier.
Tout simplement la liberté.
Rodrigue Jules Gaston, directeur technique du Levallois Sporting Club.
Ça va plus vite, il faut prendre les décisions plus vite. On est 4-3 sur le terrain, donc on touche un peu plus le ballon. On a un peu plus le droit de faire ce qu'on veut. 5-5, il y a beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de règles. Beaucoup de joueurs se détournent du 5-5 pour aller vers le 3-3 parce que justement il y a cette idée de liberté et de plaisir du jeu qui retrouve un petit peu plus.
Le club de Levallois va d'ailleurs ouvrir une section 3-3 à la rentrée de septembre. Cette pratique séduit de plus en plus de monde. Au Stade Français à Paris, la section existe depuis déjà un an. Son responsable, Rodrigue Biquenet.
Ça peut être un bon complément du 5-5. Je joue le week-end, j'ai mon 5-5. Cependant, je ne joue pas le week-end, j'ai la possibilité de faire le 3-3. Je l'ai mis en place dans les périodes où il n'y avait pas beaucoup de matchs pour que justement ces personnes puissent avoir l'opportunité de pratiquer un peu plus. Je suis persuadé que le 3-3 est l'avenir, voire même beaucoup plus, du basket.
La France accueillera en 2021 les championnats d'Europe sur le parvis de la Défense, 3 ans avant les Jeux de 2024 où le basket 3-3 sera à nouveau au programme olympique.
Le reportage de Florent Vautier. Le carton plein pour les judokates tricolores aux Jeux européens de Minsk. 2 médailles d'or aujourd'hui. Clarisse Agbenienou en moins de 63 kilos et Margot Pinault en moins de 70 kilos. Ces Jeux européens font office de championnat d'Europe dans cette discipline. Et il reste quelques secondes à peine à jouer dans ce 8e de finale de la Coupe du Monde féminine entre l'Angleterre et le Cameroun. L'Angleterre qui mène toujours 3-0 et qui semble se diriger tout droit vers un quart de finale.
C'est comme si c'était fait. C'était le journal de Cédric Langrotte, le journal des sports, bien sûr.